de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Sophie Joubert.
Bonjour à tous et bienvenue. À quoi ressemblait notre planète avant la dérive des continents? En 1915, l'Allemand Alfred Wegener publie un ouvrage qui va révolutionner les sciences de la Terre et changer la vision du monde, la genèse des continents et des océans. Astronome, explorateur, météorologue, mais pas géologue, Wegener est pourtant considéré aujourd'hui comme le Darwin de la géologie. Né en 1880 à Berlin dans une famille prussienne protestante, il fait sa première expédition au Groenland en 1905 et trouvera la mort lors de son quatrième voyage en Arctique en 1930. Avant lui, les scientifiques voyaient la Terre comme une pomme ridée et croyaient à la fixité des continents. Wegener comprend qu'il existait un continent unique, la Pangée, qui s'est fragmentée vers 300 millions d'années. Quels arguments a-t-il utilisé pour étayer sa théorie? Qui ont été ses détracteurs? Pourquoi a-t-il fallu attendre 40 ans pour que ses idées soient enfin acceptées? Comment la dérive des continents a-t-elle permis d'aboutir à la tectonique des plaques? Autour de la question « Pourquoi la dérive des continents ?», la réalisation est signée Jérémy Bessé. Bonjour Nathalie Bardet, bonjour Éric Buffeteau.
Bonjour.
Alors vous êtes tous les deux paléontologues, directeurs de recherche au CNRS. Nathalie Bardet, vous travaillez au Muséum National d'Histoire Naturelle et vous, Éric Buffeteau, au laboratoire de géologie de l'École Normale Supérieure. Et vous êtes tous les deux passionnés pour l'œuvre de Wegener. Pour quelle raison? Comment, depuis votre spécialité, là, qui est la paléontologie et non pas la géologie? Nathalie Bardet.
En ce qui me concerne, moi j'ai fait une formation de géologue. Donc en fait, pendant mon cursus, eh bien, j'ai étudié donc la théorie de Wegener et ça m'a tout de suite passionnée parce que justement, c'était Wegener, c'était pas un géologue et il a su émettre une théorie et accumuler tous les faits pour donc justement pour étayer cette théorie et,
en cherchant un peu partout
divers arguments, parce qu'en science c'est ça, c'est pas le fait d'avoir juste des idées, il faut les argumenter, les démontrer. Et pour moi, c'était vraiment passionnant.
Éric Buffeteau, c'est cette figure du savant complet qui vous a plu?
Oui, alors moi, à la différence de Nathalie, j'ai pas étudié la dérive des continents quand j'étais étudiant, parce que à cette époque, on n'en parlait pas à l'université en France, vers 1970. C'était la fin de la grande période d'oubli de la dérive des continents. Mais ce que j'ai vu, en revanche, c'est que en l'espace de quelques années, ça s'est complètement renversé et la dérive des continents, ou plus exactement la tectonique des plaques, s'est imposée à la communauté scientifique dans le courant des années 70, en très très peu de temps. Et justement parce qu'il y avait une force d'explication qui a convaincu très très vite, y compris des gens qui étaient complètement réfractaires quelques années auparavant à ce genre d'explication.
Voilà, force d'explication qui n'existait pas bien sûr à l'époque de Wegener. Alors on va revenir sur la vie de Wegener avant d'entrer précisément dans son œuvre, mais je vous propose un premier portrait par Claude Allègre, géochimiste et ancien ministre.
Wegener était un météorologiste allemand et le schéma que vous venez de décrire, il en a eu l'idée en allant au Groenland et en survolant les glaciers, il a vu au moment de la fonte des glaces, les glaciers se fendillaient et il a vu que s'ouvrait effectivement une mer entre deux glaciers qui se séparent. Et ceci lui a donné l'idée de comparer les côtes de l'Atlantique des deux côtés, une comparaison qui avait d'ailleurs été faite par d'autres personnes avant, et de généraliser cela en proposant donc que les continents s'était fendillé, puis s'était séparé, avait dérivé, comme il a dit, et que des océans étaient nés par la dérive des continents. Il a proposé cela dans une communication à la Société géologique allemande en 1910, et personne ne l'a cru.
Voilà, personne ne l'a cru, dit Claude Allègre. Alors, où en est le contexte scientifique à l'époque quand arrive Wegener avec ses théories et ses recherches, Nathalie Barnet?
C'est le contexte, c'est une Terre immobiliste. En fait, les continents, bien qu'il y ait déjà eu des précurseurs qui pensaient un peu comme Wegener, en fait, c'est une Terre avec des continents qui ont toujours été à la même place. Et en fait, les échanges de faune, par exemple, ou les similitudes de faune entre les continents, s'expliquaient par des montées et des descentes des niveaux de la mer ou des ponts continentaux. Donc, c'était une vision essentiellement verticale voilà. Des choses. Donc, et Wegener, lui, il arrive, il chamboule tout ça. Lui, c'est le contraire. C'est une vision horizontale, c'est-à-dire des continents qui étaient à une place. Puis qui se sont fragmentés et qui se sont déplacés à l'horizontale. Donc on passe d'une vision immobiliste avec des mouvements verticaux à une vision fragmentaire et mobiliste avec des mouvements horizontaux.
Quelles études a fait Alfred Wegener avant d'élaborer cette théorie?
Au départ, il n'a pas du tout étudié la géologie. Il a fait une thèse d'astronomie et ensuite il s'est tourné vers la météorologie. Il a travaillé comme météorologue dans différentes institutions en Allemagne. Et en réalité, d'ailleurs, il est toujours resté un météorologue et un climatologue. Quand il a enseigné dans diverses universités, pour finir en Autriche, d'ailleurs, à l'université de Graz, il était professeur essentiellement de météorologie, de climatologie. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il n'était pas trop prisonnier des conceptions géologiques de son époque, parce qu'il venait de l'extérieur, enfin de disciplines différentes, qui lui permettaient d'avoir un point de vue un peu plus détaché peut-être que celui d'un pur géologue.
Voilà, et puis l'autre originalité de Wegener, c'est que c'est aussi un aventurier, un explorateur. Il bat le record mondial de voyage en ballon en 1905, 52 heures passées là-haut, hein, ce qui est assez important quand même pour l'époque. Et puis il a donc fait, comme je disais tout à l'heure, 4 expéditions au Groenland. Écoutez, Bertrand Humbert, explorateur, il parlait en 1997 sur France Culture.
Wegener s'était fait financer son expédition par la République de Weimar. C'était juste avant l'époque nazie. Il avait été décidé qu'une station centrale enregistrerait la météo au sommet de l'Icecap, c'est-à-dire environ 3000 mètres d'altitude. La station devait être tenue par deux hommes, Georgi et un autre Allemand dont je ne me souviens plus le nom. Et Wegener est allé les voir pour aller voir si tout allait bien. Un peu trop tard dans la saison, il y était avec Fritz Loewe. Et Loewe ayant les pieds gelés, il a eu la vie sauve parce qu'il est resté à hiberner. Wegener est revenu avec un Esquimau et il est mort. Ils sont morts tous les deux en revenant. Le docteur Wegener avait fait non seulement des études de glaciologie, mais également des études, les premiers sondages d'épaisseur de la glace du Groenland. On savait pas du tout si cette glace avait une centaine de mètres d'épaisseur ou quelques milliers de mètres. C'est le premier à avoir trouvé cela, et je dois dire que on peut dire pratiquement que après la guerre, à partir de 1948, quand Victor a créé les expéditions polaires françaises, ces expéditions au Groenland ont poursuivi les études de Wegener. L'épaisseur de glace, pour donner une idée, si elle fondait, ben elle va pas fondre après-demain, mais si elle fondait, elle représenterait une élévation du niveau de tous les océans du monde de 7 mètres.
Voilà, donc Wegener fait 4 expéditions polaires, 1905, 1912, 1915, 1929 et la dernière en 1930 dans laquelle il va trouver la mort. Quelle est l'importance de ces expéditions pour comprendre son œuvre, Nathalie Bardot?
En fait, il faut bien préciser que les expéditions de Wegener au Groenland ont pas grand-chose à voir avec sa théorie de la dérive voilà. Des continents. Il fait surtout des études météorologiques et compagnie, mais c'est pas vraiment à part le déplacement des glaciers, des choses comme ça, des continents, ça a pas vraiment de rapport en fait. C'est pas vraiment sur cette base-là qu'il va argumenter sa théorie.
Mais ce qui est vrai, comme le disait Bertrand Meyer, c'est qu'il a ouvert la voie à d'autres.
Oui. Donc,
c'est quelqu'un qui avait des intérêts multiples. Par exemple, qu'on oublie souvent, mais il a fait des expériences sur la formation des cratères lunaires vers 1920, d'où il a conclu que c'était des cratères d'impact météoritique, alors qu'à l'époque, on pensait plutôt que c'était des cratères volcaniques. Et là, il avait parfaitement raison. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de rapport direct avec la dérive des continents non plus. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de centres d'intérêt, beaucoup d'imagination et une certaine audace intellectuelle, disons.
Alors, si on arrive précisément sur la dérive des continents, il s'y intéresse donc pour la première fois, comme le disait Claude Allègre dans l'extrait précédent, en 1910, dans un article. C'est ça le point fondateur ?
Oui, en fait, en 1910, il s'était aperçu que les côtes de l'Amérique du Sud et de l'Afrique s'encastraient parfaitement. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à travailler. C'était une idée qui était un peu dans l'air du temps, parce qu'il y avait d'autres personnes qui s'en étaient déjà aperçues. Et ensuite, c'est en 1912 qu'il va publier son premier article, sur lequel il base ses arguments sur de la géologie, de la géophysique et de la géodésie, je crois. Donc, et ensuite, en 1915, dans son grand ouvrage, donc le livre, là, il rajoute les arguments climatologiques et les arguments paléontologiques.
Voilà, on va essayer de dérouler précisément tous ces arguments. On en parle juste après Rick Wakeman, Voyage au centre de la Terre sur RFI. Wakeman, The Journey to the Center of the Earth, Voyage au centre de la Terre, en bon français. Autour de la question, pourquoi la dérive des continents, Nathalie Bardet, Eric Buffetot, Alfred Wegener a eu l'intuition qu'il existait une masse continentale unique et qu'elle a commencé à se fragmenter il y a environ 300 millions d'années. Il s'est appuyé, on le disait tout à l'heure, sur divers champs disciplinaires. Écoutez Jean-Christophe Victor qui présente l'émission Le Dessous des Cartes sur Arte.
Si vous prenez une map monde, une carte de notre globe terrestre, vous constatez que les continents peuvent presque s'emboîter les uns les autres, comme les pièces d'un puzzle. L'exemple le plus net, c'est l'emboîtement possible entre l'Amérique du Sud et le continent africain. À partir d'un continent unique qui s'appelait la Pangée, il y a environ 250 millions d'années, se sont formés les continents que nous connaissons. Ils se sont fractionnés, ils ont lentement dérivé, pour aboutir à cette carte du monde dont nous sommes familiers aujourd'hui. Voilà notre globe terrestre il y a à peu près 300 millions d'années, c'est-à-dire à la fin de l'ère primaire. Notre Terre n'a pas encore les contours que nous lui connaissons aujourd'hui, et il n'existe alors qu'un seul continent qu'on appelle la Pangée. Cette masse continentale unique est entourée par un océan unique qu'on appelle Panthalassa et qui est sans doute l'ancêtre de l'océan Pacifique. Vous voyez ce continent unique, donc la Pangée, elle est séparée en deux par une sorte de golfe, une mer en eau peu profonde, qu'on appelle la Tétis. Au nord de la Tétis, la Laurasie, au sud de la Tétis, le Gondwana. On voit assez bien que la Laurasie rassemble les futures Amériques du Nord et Eurasie, et que le Gondwana rassemble les futures Amériques du Sud, Afrique, Antarctique, Madagascar, Australie, péninsule arabique et l'Inde.
Et Alfred Wegener, en son temps, a fait comme Jean-Christophe Victor, il a élaboré une série de cartes devenues fameuses qui montrent précisément l'évolution depuis le Carbonifère. De quoi s'agit-il, Éric Buffetaud ?
Mais ce sont des cartes qu'il a faites en s'appuyant sur une quantité de données de géologie, de paléontologie aussi, de paléoclimatologie, parce que ça permettait par exemple d'expliquer beaucoup mieux certains phénomènes climatiques dans le passé, des périodes glaciaires par exemple. Et pendant entre 1915 et sa mort 15 ans plus tard, il n'a pas cessé d'accumuler des données nouvelles venant de toutes les disciplines possibles pour confirmer ses interprétations. Et d'ailleurs, son premier livre de 1915, il est très mince, il fait une petite centaine de pages, et au fur et à mesure des nouvelles éditions, il est devenu de plus en plus épais, parce que il cherchait constamment de nouvelles données. Et c'est ce qui a fait la force de sa démonstration, c'est qu'il expliquait par sa dérive des continents toutes sortes de phénomènes géologiques ou paléontologiques ou paléoclimatologiques qui étaient complètement inexplicables dans une géographie fixe, comme on l'imaginait auparavant.
Comme l'imaginait son rival Édouard Sousse à l'époque.
Son rival. Enfin, ils ont été un peu contemporains, mais effectivement, Édouard Sousse avait une conception de la Terre qui n'était pas du tout mobiliste comme celle de Wegener. Mais il faut voir aussi qu'il a, de son vivant, il a été confronté à une très grosse opposition de la part de nombreux spécialistes, et notamment des géologues, parce que en plus les géologues lui reprochaient de ne pas être un géologue. Ils disaient que nous raconte ce météorologue qui est pas vraiment compétent pour parler de grandes questions géologiques.
Et il a cherché toute sa vie, un peu comme l'a fait Darwin. C'est ce que vous dites dans un de vos articles, Éric Buffetaud.
Oui, on peut faire un parallèle un peu avec Darwin, qui lui aussi a accumulé des preuves de toutes sortes en faveur de sa théorie de l'évolution, et qui, comme Wegener, a publié de nombreuses éditions de son livre sur l'origine des espèces, qui à chaque fois sont augmentées, modifiées avec de nouvelles données qui vont dans le sens de ses idées.
Alors, si on prend les arguments de Wegener les uns après les autres, alors on laisse pour tout à l'heure la question de la faune et de la flore qui vous occupe particulièrement, mais si on prend par exemple les arguments purement géologiques, sur quoi il s'appuie, Nathalie Barnet ?
Alors, il s'appuyait par exemple sur la concordance des structures géologiques de part et d'autre de l'Atlantique. Par exemple, en Amérique du Sud et en Afrique, il y a ce qu'on appelle des boucliers, des cratons, et donc qui ont le même âge, qui sont formés des mêmes roches. Et si on remet donc l'Amérique du Sud et l'Afrique ensemble, on s'aperçoit que ces cratons, ben, ils s'assemblent parfaitement ensemble. La même chose entre les chaînes calénonides, donc en Europe, et puis les Appalaches et les Mauritanides entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc c'est des chaînes de montagnes qui ont les mêmes structures, les mêmes âges, et en fait donc avant elles étaient un des arguments de Wegener, c'est qu'avant elles étaient ensemble et qu'ensuite elles ont été séparées par un océan qui s'est formé, quoi. Il y avait également des arguments géodésiques où par exemple les expériences au Groenland, il a montré que les continents bougeaient, c'est-à-dire d'une année sur l'autre, ils prenaient des mesures et puis ils se sont aperçus que ce Groenland, eh bien, il bougeait. Bon, à part qu'ils avaient fait des erreurs dans les mesures et que justement, si on s'en était tenu à ça, à ces vitesses de mouvement, le Groenland aurait déjà dû impacter l'Amérique du Nord depuis longtemps. Et puis il y avait aussi des arguments géophysiques, comme quoi les continents formés de matériaux plus légers, donc dérivés sur de la croûte océanique plus dense. Voilà. Donc ça, c'est essentiellement les arguments géologiques très résumés exploités par Wegener.
Et puis on peut aussi parler des paléoclimats. Il s'est aperçu qu'il y avait les mêmes traces de glaciation sur plusieurs continents.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire la répartition de dépôts sédimentaires, des moraines par exemple, qui sont actuellement retrouvés en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, en Antarctique, eh bien, s'expliquer si on rassemblait tous ces continents en un seul, et donc ça formait une immense calotte glaciaire située au sud de ce continent Pangée.
Alors, on va s'attarder tout à l'heure sur la flore et surtout sur la faune et les reptiles que vous étudiez, Nathalie Bardet et Éric Buffetaud. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes, juste après les informations sur RFI.
Sophie Joubert.
Autour de la question, pourquoi la dérive des continents, avec Nathalie Bardet et Éric Buffeteau, paléontologue et directeur de recherche au CNRS. On le disait tout à l'heure, Alfred Wegener a utilisé des arguments dans toutes les disciplines pour étudier sa théorie de la dérive des continents. On va s'intéresser à la paléontologie et à la biologie. Écoutez Gabriel Gohaut, historien de la géologie.
Disons qu'il y a une époque qui se situe aux alentours de 300 millions d'années, à la fin de l'ère primaire, au moment où sur le continent européen se forment les charbons du bassin franco-belge et de la Roure. Dans l'hémisphère sud, au Brésil, en Afrique, et puis ensuite à Madagascar, en Inde, et jusqu'en Australie et même dans l'Antarctique, on trouve une flore qui est très différente et qui n'est pas différente de la flore du continent septentrional uniquement pour des raisons climatiques, mais il y a tant d'affinités entre les flores de ces différents territoires que je viens d'indiquer que on pense qu'il y a entre elles des affinités de filiation, de telle manière que il faut que ce soit des ancêtres communs qui aient peuplé ces différents territoires. Donc tout se passe comme si il y avait des liens nécessaires à cette époque entre l'Amérique du Sud, l'Afrique, et puis jusqu'à l'Australie.
Nathalie Bardet, vous étudiez la paléobiodiversité. Quels exemples on peut prendre de similitudes d'espèces sur différents continents, à la fois dans la flore et dans la faune?
Alors justement, d'après ce que disait Gabriel Gohaut, la flore à Glossopteris, c'est un bon exemple. C'est ces plantes que l'on retrouve actuellement disséminées sur plusieurs continents et qui, à l'époque, donc si on remet tous les continents ensemble, donc se retrouvent au même endroit. Et il y a aussi différents reptiles qu'a utilisé Wegener comme pour étayer sa théorie, notamment un petit reptile marin qui s'appelle Mesosaurus, qui vivait à la fin du Permien, il y a environ 260 millions d'années.
C'est une espèce de varan?
Oui et non. Enfin, non, ça n'a pas d'équivalent actuellement. Donc, c'est un petit reptile qui faisait à peu près 50 centimètres. Et que l'on retrouve actuellement en Afrique du Sud et dans le sud de l'Amérique du Sud. Alors on a du mal à comprendre, c'était un petit reptile qui était aquatique, mais si on considère que les continents avaient leur place actuelle, on a du mal à comprendre comment un tout petit reptile comme ça a pu traverser un océan Atlantique immense, alors que si on regroupe tous les continents, eh bien, justement, ça permet d'expliquer cette répartition de ce petit reptile. Donc, il est impossible que ce petit reptile ait pu traverser l'immense océan Atlantique. Donc, pour Wegener, en fait, l'immense océan Atlantique, il n'existait pas à cette époque-là.
Et signalons, pour nous amuser, que ce petit reptile figure dans le nouvel épisode de Jurassic Park, Jurassic World, mais la production l'a énormément gonflé.
Non, c'est pas du tout la même chose. Donc, ça, c'est un mot Mosasaur, celui qui apparaît dans Jurassic Park, donc ça n'a rien à voir. Ça, c'est un reptile marin de la fin du Crétacé, donc il pouvait être énorme, mais effectivement dans
Jurassic Park. Il est encore plus énorme.
Non, il est démesuré, mais c'est suite à des variations génétiques. Enfin, ils expliquent ça dans le film et tout, ils font des tas de trucs. Donc,
Éric Buffeteau, si on parle des reptiles continentaux que vous utilisez, est-ce que ça fonctionne de la même manière?
Oui, parce que peut-être même à plus forte raison, les animaux continentaux qui ne peuvent pas traverser des étendues océaniques, enfin ou très difficilement, parce qu'il faudra, c'est pas totalement impossible, mais très difficilement, ça donne des bonnes indications sur la proximité des masses continentales dans le passé. Et par exemple, on a pu expliquer la distribution de divers dinosaures de cette façon. Si on prend par exemple les premiers dinosaures qui vivaient il y a à peu près 230 millions d'années au Trias, on trouve à peu près les mêmes un peu partout, qu'on soit en Chine, en Amérique du Sud, en Allemagne, au Groenland. C'est une faune assez uniforme. Et dans la position actuelle des continents, c'est très difficile à expliquer. On se demande comment ça peut se faire. Or, si on ramène tous ces continents à cette fameuse Pangée, ce continent unique, là, tout s'explique. On a une seule masse continentale et sur laquelle les animaux pouvaient circuler librement sans barrière. En revanche, après, si on suit l'histoire des dinosaures, elle est parallèle à celle des continents, c'est-à-dire les continents commencent à se séparer, à dériver, et là vous allez trouver des dinosaures de plus en plus différents d'un endroit à l'autre du monde. Ce qui fait qu'à la fin du Crétacé, par exemple, dans le sud de la France, vous avez des quantités de restes de dinosaures, mais vous n'y trouverez jamais un tyrannosaure, parce que ces animaux ne vivaient qu'en Amérique du Nord et en Asie. Et ces régions étaient déjà séparées par des océans, et donc les faunes de ces époques étaient déjà bien individualisées.
Alors, Wegener n'est pas allé complètement au bout de sa démonstration. Quelles étaient les faiblesses de son raisonnement? Qu'est-ce qui lui a manqué? Au fond, il lui a manqué du temps,
Il lui a manqué du temps, évidemment, puisqu'il est mort à 50 ans, ce qui était quand même très prématuré. Et aussi, ce qui lui a manqué essentiellement, c'est le mécanisme, c'est le moteur de cette dérive. Est-ce que c'est les géophysiciens de l'époque vont faire remarquer, avec d'ailleurs des arguments qui étaient assez solides. On voyait mal comment ces continents formés de roches assez légères pouvaient se flotter sur des roches qui étaient beaucoup plus denses. Physiquement, il y avait un très gros problème. Alors, il en était conscient, il a cherché des explications. Il s'est approché d'ailleurs de certaines explications en utilisant les travaux d'autres géologues de cette époque, et notamment via les courants de convection qui se forme dans le noyau de la Terre à cause des différences de température entre la profondeur et la surface, et qui sont potentiellement un moteur qui pourrait faire déplacer des objets se trouvant à la surface du globe. Mais à son époque, dans les années 1920, on commençait tout juste à envisager ce type de phénomène, et il est mort trop tôt pour pouvoir développer ce type d'explication. D'autres l'ont fait ensuite.
Voilà, alors on va voir comment d'autres l'ont fait et quelles découvertes importantes ont permis d'étayer la démonstration de Wegener. Alors, on va faire un saut dans le temps et on va arriver en 1962 avec la découverte de la dorsale médio-océanique. Écoutez de nouveau Jean-Christophe Victor dans l'émission Le Dessous des Cartes sur Arte.
Il y a plusieurs types de déplacements entre les plaques. De grandes chaînes de montagnes sous-marines, on les appelle des dorsales médio-océaniques, culminant entre 2000 et 3000 mètres, et qui forment le point de rencontre entre deux plaques. Et bien c'est là, au cœur de ces dorsales sous-marines, que l'on observe le mieux le phénomène moteur de la théorie de la tectonique des plaques, c'est-à-dire l'expansion des fonds océaniques. Vous voyez du magma venu du manteau terrestre qui remonte au milieu de la dorsale, il se refroidit et constitue alors une nouvelle croûte océanique. De part et d'autre de la dorsale, cette croûte océanique nouvellement formée se déplace en poussant les fonds les plus anciens et en écartant les plaques les unes des autres. Ce processus s'appelle accrétion et il explique le renouvellement de la croûte terrestre. C'est d'ailleurs de cette façon que s'est formé l'océan Atlantique. Pourtant, cette création continue de croûte terrestre ne provoque pas d'augmentation du volume de la Terre. S'il existe des zones en expansion, c'est qu'il doit donc exister aussi des zones de destruction. Le point de contact entre les plaques pacifiques et sud-américaines va nous permettre de mieux comprendre. La rencontre, la convergence de ces deux plaques se traduit par le phénomène de subduction. C'est-à-dire que les deux plaques se chevauchent et que celles situées en dessous plongent dans la sténosphère, où elles se réchauffent, fondent et se transforment elles-mêmes en nouvelles asténosphères. Cette zone de contact est caractérisée par des séismes puissants de profondeur variable.
Voilà, donc cette découverte de la dorsale médio-océanique et de l'expansion des fonds océaniques, c'est absolument primordial. Mais avant ça, il y a eu le paléomagnétisme de Rankine et Irving, c'est bien ça, oui. Chronologiquement, Eric Buffetot?
Oui, parce que quand on a commencé à étudier le magnétisme ancien qui est conservé dans les roches, par des grains de minéraux qui ont conservé l'orientation qu'ils avaient lors de leur formation, on peut reconstituer la position des pôles dans le passé. Et on s'est aperçu dans les années 50 qu'il y a quelque chose qui clochait, c'est-à-dire que pour une même époque, si vous pouviez reconstituer le pôle à partir de roches, mettons en Europe et en Amérique du Nord, vous n'arriviez pas à un même pôle, il n'est pas au même endroit, donc il y a quelque chose qui n'arrive pas. Et la seule façon de faire coïncider ces positions anciennes des pôles, c'était de faire déplacer les continents. Et à ce moment-là, quand les continents étaient replacés dans leur position initiale, qui était en gros ce que Wegener avait fait, à ce moment-là, vous pouviez réconcilier les données paléomagnétiques venant d'un continent et d'un autre. Et ça, ça a été un premier épisode, un premier argument important pour faire revenir la dérive des continents sur le devant de la scène.
Voilà, donc il y a eu plusieurs strates de découvertes avant d'arriver réellement à la tectonique des plaques, puisque le terme n'a été prononcé, je crois, qu'en 1968
67.
Ouais. Voilà, donc comment on y arrive étape par étape?
Ben justement avec l'exploration des fonds marins. En fait, le paléomagnétisme, donc comme vient de l'expliquer Eric, et puis l'exploration au fur et à mesure des fonds marins, donc a permis de découvrir toutes ces dorsales océaniques qui jalonnent les océans, à la fois dans l'Atlantique, mais tout, à peu près tout autour, qui a permis de dresser une carte où on voit toutes les zones d'accrétion et puis de subduction. Et donc, on est passé de la dérive des continents de Wegener, donc où ce sont les continents qui bougent, à la tectonique des plaques, où en fait, ce sont les plaques, des plaques entre elles qui bougent, des plaques sur lesquelles sont disposées à la fois de la croûte continentale et de la croûte océanique.
Et l'observation des zones sismiques est extrêmement importante.
Ah oui, tout à fait, oui. Mais en fait, actuellement, les zones sismiques peuvent être expliquées par justement la dérive des continents, la tectonique des plaques, quoi. C'est-à-dire, on peut pas prévoir à l'avance, évidemment.
Jamais,
mais on sait exactement, en fait, c'est ces collisions de plaques ou ces subductions de plaques qui expliquent toutes les zones mondiales où se situent les séismes. Les géologues arrivent à expliquer pourquoi, par exemple, la zone de l'Iran, il y a des séismes, pourquoi l'Himalaya, pourquoi la cordillère des Andes, voilà.
Éric Buffetaut, dans les années 50-60, la théorie fixiste, comme on dit, est encore assez importante.
Oui, comme je vous disais tout à l'heure, moi, étant étudiant en géologie à Paris vers 1970, j'entendais pratiquement pas parler de dérive des continents. Il y avait un seul professeur qui osait prononcer ce mot, disons. Les autres l'ignoraient complètement. Alors, ça veut pas dire que c'était complètement oublié, parce que toujours, depuis 1915, depuis Wegener, et après sa mort, il y a toujours eu quelques personnes dans la communauté scientifique qui disaient finalement, c'est pas si bête cette idée, il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans, donc ça n'a jamais totalement disparu, mais les gens qui avaient un certain intérêt pour la théorie des dérives des continents était extrêmement minoritaire, un peu marginaux, et ça a duré jusqu'à l'avènement de la tectonique des plaques, donc à la fin des années 60 et au début des années 70.
Alors justement, c'est Morgan et Mackenzie qui nomment cette tectonique des plaques. Qu'ont-ils fait? Écoutez Claude Jopard, chercheur à l'Institut de physique du globe.
Ce qu'ils ont fait, ces deux personnages, ce qui est essentiel, c'est qu'ils se sont dit, je vois des mouvements à la surface du globe. À l'époque, c'était accepté, il y avait des mouvements. Toute la question était de savoir, un, comment les décrire, et deux, comment les réduire de la manière la plus simple possible. Donc, ce qu'avaient fait Morgan et Mackenzie, c'est de se dire, bon, en fait, je connais qu'il y a des endroits du globe où ça se déforme, j'ai des chaînes de montagnes, j'ai des chaînes de montagnes sous-marines, là, il est clair que j'ai de la déformation, mais ailleurs, je n'en vois pas. Donc, puisqu'il n'y a pas de déformation, ce sont des blocs rigides qui se déplacent. Si ce sont des blocs rigides qui se déplacent, la théorie devrait me dire combien il y en a, et puis quel est le nombre minimum de blocs qu'il me faut pour expliquer tout ce que je vois sur Terre. Donc ils ont travaillé simultanément à essayer de décrire tous les mouvements ou toutes les structures qu'on voyait à la surface du globe de la manière la plus simple possible. Donc ça voulait dire, je prends combien de blocs rigides me faut-il pour expliquer tout ce que je vois. Évidemment, il fallait donc avoir cette idée-là, et puis d'autre part avoir la théorie qui permettait de calculer les déplacements à la surface de la sphère. Ça, c'est une vieille théorie mathématique qu'on doit à Euler, plusieurs siècles auparavant. Donc ce qu'ils ont fait, c'est appliquer des théories physiques bien solides à des observations géologiques qui étaient pour l'instant, avant eux, dispersées et peu expliquées.
Réaction à ce que disait Claude Jopard, Éric Buffetaut?
Je crois qu'il montre bien que l'importance de la physique et des explications physiques pour convaincre finalement la communauté scientifique que les déplacements continentaux étaient possibles, parce que c'est ce qui avait beaucoup bloqué, c'était que il y avait bien sûr énormément d'arguments de toutes sortes, géologiques, paléontologiques, mais il manquait une explication physique suffisamment convaincante pour ces déplacements des continents. Et c'est là que différents scientifiques dans les années 60 et 70 ont apporté une théorie complète expliquant ces mouvements des continents.
Nathalie Mardet. Je voulais juste souligner que d'ailleurs à son époque, Wegener souligne avec beaucoup de modestie dans son livre, il dit il manque un Newton pour expliquer le mécanisme de la dérive. Ça, je trouve que c'est intéressant de sa part, mais justement, il pouvait pas savoir puisqu'il lui manquait. En fait, ce qui a manqué à Wegener, c'est surtout donc l'étude des fonds océaniques et du paléomagnétisme.
Et donc, ce qui lui a manqué aussi, ce sont les instruments modernes, puisque l'instrumentation a fait beaucoup de progrès quand même.
Oui, c'est ça. En fait, l'exploration des fonds marins, tout ça, c'est venu après la Seconde Guerre mondiale essentiellement. Et tout ça, évidemment, il n'y a pas eu accès, donc c'était pas possible pour lui.
Quels appareils, par exemple?
Ben les bateaux qui explorent les fonds marins, enfin tous les systèmes de radar, des choses comme ça. Donc je ne sais pas trop exactement vous dire,
les mesures de paléomagnétisme, voilà, justement sur les fonds marins, qui ont permis de montrer cette espèce de tapis roulant qui se développe des deux côtés des dorsales médio-océaniques.
On continue de parler de la dérive des continents d'Alfred Wegener et de la tectonique des plaques. On fait une pause avec Strobe, Deadmau5 sur RFI. Deadmau5 sur RFI, Eric Buffeteau, Nathalie Barnet, on le disait tout à l'heure, les choses se sont retournées à partir des années 70 et la communauté scientifique et surtout la communauté enseignante a commencé à vraiment accepter les théories de Wegener. Écoutez de nouveau Claude Allègre, il parle de l'enseignement de Wegener.
En France, par exemple, la bataille a été très très difficile et en 1973, il y a eu la réunion des sciences de la Terre, la première réunion des sciences de la Terre française, et la grande majorité des gens étaient contre, absolument opposés à cette idée. Et même en 1975 ou 76, beaucoup de géologues étaient opposés. Donc la conversion est venue très lentement. La tectonique des plaques a été enseigné à l'université de Paris 7 à partir des années 71, je pense, 72, et jusqu'aux années 77, ça a été le seul endroit où c'était enseigné en France. Ça vous montre bien que c'était pas bien admis, alors qu'aujourd'hui, c'est enseigné dans l'enseignement secondaire.
En quelle classe on l'étudie aujourd'hui? Vous confirmez ce que dit
je confirme en partie. Enfin, il a tout à fait raison quand il dit que au début des années 70, c'était totalement ignoré dans l'enseignement universitaire. Là où je suis pas tout à fait d'accord avec lui, c'est quand il dit que ça a mis longtemps, parce qu'en fait, en espace de 5 ans, ça avait complètement changé. Alors évidemment, ça dépend ce qu'on appelle longtemps ou rapidement, mais tout de même, ça s'est fait. De mon propre souvenir, ça s'est fait. Et il a tout à fait raison de parler de ce cette réunion en 1973, où ça a commencé à être discuté de façon sérieuse. Mais à mon sens, après, il a fallu quelques petites années pour que ça s'impose. Donc, c'est pas si bon que ça.
Les choses ne sont pas forcément passées de la même manière dans tous les pays. Je voudrais qu'on parle du cas de l'Allemagne, Éric Buffetot. Vous avez écrit un article dans lequel vous dites que le régime nazi était pour les théories de Wegener et la dérive des continents. Alors, ce qui ne veut pas dire que Wegener était nazi, puisqu'il était déjà mort au moment de l'arrivée d'Hitler au pouvoir.
Je ne connais pas les opinions politiques de Wegener.
C'est pas du tout ça, mais alors, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est quelque chose que j'ai découvert un peu par hasard et avec un certain étonnement. Ça ne plaît pas à tout le monde, d'ailleurs, d'entendre ça. Mais c'est vrai qu'on voit, en lisant des textes, y compris dans des revues de vulgarisation, des choses très grand public, une défense appuyée de la dérive des continents à l'époque du national-socialisme. Alors pourquoi est-ce qu'ils trouvaient ça bien? Bon, ils avaient une tendance à trouver les théories scientifiques les plus excentriques assez attirantes, alors c'est peut-être un peu pour ça. Puis aussi, c'était une théorie bien allemande quand même. C'était un savant allemand qui l'avait trouvé, qui était mort héroïquement au Groenland. Quelles qu'aient été ses opinions politiques, il collait pas mal dans l'image qu'on pouvait se faire du bon savant allemand. Alors je sais pas, ça n'a pas été très très étudié cette histoire-là, parce qu'à la même époque, il y a des géologues en Allemagne qui n'y croyaient pas du tout. Mais semble-t-il que le régime lui avait un petit faible pour la dérive des continents.
D'ailleurs, enfin, qu'est-ce qu'on sait des opinions politiques de Wegener?
Moi, je n'en sais rien. J'ai rien pu lire à ce sujet.
On sait qu'il a fait la guerre,
la première guerre mondiale. De 14, comme tout Allemand en état de se battre, bien sûr. Mais ensuite, on n'a pas de... Alors, j'ai lu quelque chose dit par sa veuve après sa mort et après la Deuxième Guerre mondiale, disant que c'était un bon patriote allemand, mais pas un nazi.
Mais est-ce que ça peut expliquer le fait que ces théories étaient un peu mises de côté pendant un moment? Est-ce que ça a jeté un soupçon sur son œuvre?
Je pense pas, mais ce qui a jeté un soupçon, c'est au début, parce que il a publié son livre en 1915, en pleine guerre mondiale, et ça a fait que d'abord, c'est resté très confidentiel à l'extérieur de l'Allemagne et des alliés de l'Allemagne, et puis juste après la guerre de 14, tout ce qui venait d'Allemagne était mal considéré, et notamment en France.
C'était, ouais. Les géologues français, il y en a un qui a dit que c'était les doux rêves d'un météorologiste allemand. Donc ça fait un peu une triple insulte. C'est les doux rêves, météorologiste dont c'est pas un géologue, et allemand. C'était juste après la Première Guerre mondiale. Donc effectivement, en France par exemple, c'est ça qui peut expliquer aussi. Donc c'était un allemand, donc forcément...
Qu'est-ce qui est prévu cette année pour le centenaire de la publication de la jeunesse des continents et des océans?
Alors nous, on a prévu tous les deux... On fait notre pub. On a prévu le 9 décembre une séance à la Société Géologique de France, donc en hommage à Wegener, qui sera surtout centrée sur la dérive des continents et la paléontologie. Donc où nous aurons 5 conférenciers. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui sont prévues. Forcément, en Allemagne, il doit y avoir des commémorations. Et oui, en France, je ne sais pas s'il y a d'autres...
Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un anniversaire qui se fait assez calmement, disons. En revanche, par exemple, je me souviens très bien, en 1980, c'était le centenaire de la naissance de Wegener et le cinquantenaire de sa mort, par la même occasion. Il y a eu un très grand congrès à Berlin sur ce sujet. Mais ça marquait aussi, je dirais, en 1980, c'était le triomphe de ses idées, en fin de compte, après des décennies de rejet, et donc ça avait été marqué de façon très solennelle à Berlin. Cette année, j'ai pas entendu parler de manifestations particulièrement grandioses pour le centenaire de son livre.
Alors, preuve que la dérive des continents est désormais une théorie adoptée par tous, même les dessins animés s'en emparent, écoutez.
Ça va, mes petits mammifères? Je suis Sig, le paresseux du film L'âge de glace. Ensemble, on va apprendre une nouvelle danse, la dérive des continents. Allez, debout sur vos deux jambes. Vous verrez, c'est pas dur, faites juste comme moi. En avant, et puis danse en arrière, et recommence à gauche. Dérive à droite, et dérive, croise, croise. Et fais le mammouth, croise, croise. Et fais le mammouth, puis saute, saute. Remue tes hanches et bouge ton boule comme mémé. En avant, et évident.
Voilà, c'est notre ami Sid, le héros de l'âge de glace. Là, c'était la chanson de l'âge de glace 4. Nathalie Bardet, c'est vous qui m'avez donné l'idée, puisque vous reproduisez Scrat, le petit animal, dans le PowerPoint que vous consacrez avec Nerf.
Ah oui, alors justement, c'est là qu'on apprend, on sait toute la solution sur les moteurs de la dérive des continents. Donc, c'est ce petit écureuil qui va chercher son gland au milieu, donc, qui provoque une fissure et qui va chercher son gland au milieu, qui fait, enfin bon, c'est absolument génial dans le film, mais je pense qu'il faut être géologue pour le comprendre. Et moi, je sais que je suis allée avec mon mari, qui est également. Alors, on était les deux seuls morts de rire dans la salle, quoi. Bon, les gens ont dû se dire pourquoi ils rigolent autant. Mais c'est vraiment très. Et alors, c'est un film qui est sorti en 2012, donc ils étaient vraiment. Exactement, ils fêtaient le centenaire du premier article. On s'est dit que c'était pas par hasard. Mais c'est vraiment. La scène est vraiment géniale.
Et qu'est-ce qui reste encore à découvrir en matière de dérive des continents, de tectonique des plaques? Quelle recherche on peut encore mener?
En fait, moi j'ai entendu une conférence à Bruxelles d'un géophysicien qui disait que justement les mouvements de convection, là, les plumes du manteau, bien ça restait encore un peu assez énigmatique. Il y avait encore à faire des travaux là-dessus.
Qu'est-ce que vous appelez les plumes du manteau?
C'est les mouvements de convection, de remontée du manteau, donc les plumes là aussi qui mais donc il y a encore des travaux à faire là-dessus.
Éric Buffetot.
Oui, c'est des questions qui se posent sur le mécanisme interne, en fait, en fin de compte, qui fait bouger les continents. Ensuite, il reste des tas de questions qui se, plutôt de détails, hein, sur différents aspects des mouvements des continents et de leurs conséquences. Leurs conséquences aussi bien sur la géologie que sur les faunes et les flores, puisque maintenant, quand on explique l'évolution des êtres vivants à la surface de la Terre, ça se fait complètement dans un cadre de mobilité continentale. Mais c'est pas pour autant qu'on a compris toutes les raisons pour lesquelles les plantes ou les animaux se sont dispersés à la surface du monde. Et donc là, c'est un jeu perpétuel entre la paléontologie et la géologie.
Merci beaucoup Nathalie Bardet et Éric Buffetot. Merci à Jérémy Besset pour la réalisation. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site rfi.fr.